Aussi étonnant que cela paraisse, tous les secrets de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas encore été dévoilés. Et certains documents ne sont toujours pas déclassifiés. Il y en est bien sûr. Ainsi, en Russie, où malgré la fin de l'Empire soviétique, certaines archives demeurent inaccessibles, mais aux États-Unis aussi. Et en 1998, le président Clinton a dû créer une commission spéciale rassemblant des agents des principaux services secrets afin d'ouvrir une partie des dossiers sur les crimes nazis. Une partie seulement. Quant à la Grande-Bretagne, elle commence tout juste à permettre aux chercheurs de fouiller ses archives. Toutefois, certains documents ne seront pas consultables avant 2018. Et en France, la DGSE, notre service de renseignement, garde toujours dans ses coffres des informations jugées sensibles. Pourquoi cette chape de plomb? Que faut-il encore cacher plus d'un demi-siècle après la fin de la guerre? La première idée qui vient à l'esprit est que les anciens alliés, tant à l'Est qu'à l'Ouest, n'ont guère envie que l'on mette à jour leur compromission avec des criminels de guerre dans le cadre de la guerre froide. Mais ce n'est pas tout. Et alors qu'on vient de célébrer le 60e anniversaire de la libération des camps d'extermination, deux questions reviennent toujours aussi lancinantes. Qui savait et aurait-on pu agir pour mettre fin à l'Holocauste, ce que les nazis nommaient hypocritement la solution finale? Monsieur X a choisi, au cours de deux entretiens, de tenter de répondre à ces deux questions.
Il faut d'abord bien avouer que pendant près de 25 ans, on a généralement oublié. Et il a fallu des gens comme Serge Klarsfeld ou Lanzmann pour que l'on prenne enfin conscience de l'horreur et de la spécificité du génocide.
Il y a quand même eu auparavant des livres, des films, des témoignages.
Ah, certes, mais on préférait fermer les yeux. Prenons que l'exemple de la France. Regardez ce qui se passe en 1945. Alors que les déportés survivants reviennent peu à peu dans notre pays, on juge le maréchal Pétain. Eh bien, au cours des débats, c'est à peine si on évoquera le sort des Juifs. Pourtant, l'accusé est tout de même l'homme qui a promulgué le statut des Juifs et dont la police a arrêté des milliers d'entre eux.
Ils ont été immédiatement déportés.
Et pour la plupart exterminés, oui. Enfin, il en sera de même un peu plus tard lors du procès Laval. Quant à Bousquet, le chef de la police, l'homme qui a présidé à la rafle du Veldiv, il ne sera condamné qu'à 5 ans de dégradation nationale. Une condamnation aussitôt annulée au prétexte qu'il aurait transmis de précieux renseignements aux alliés. Non, la vérité, c'est qu'on ne s'intéresse pas vraiment à cette question. Il y a eu des déportés, un point c'est tout.
Alors oui, c'est ça, on évite de s'interroger sur le caractère systématique de la déportation des Juifs.
Ah, sauf quand il s'agit d'accorder des indemnités. Les déportés qui ont été envoyés dans les camps, du seul fait de leur judéité, toucheront moins que les résistants. Autre exemple, dans leur mémoire, le général de Gaulle et Winston Churchill évoqueront la barbarie nazie, mais n'accorderont que quelques lignes au sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et pourtant, plus de 5 millions d'entre eux ont été exterminés.
En effet, oui. Un point de détail de l'histoire, comme dirait Le Pen. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir aux sources de cette monstruosité.
Une monstruosité inconcevable.
C'est vrai. C'est ce que diront beaucoup de ceux qui découvriront l'ampleur du génocide.
Ouais, c'est jamais on aurait pu imaginer.
C'est ça. Et pourtant, Hitler n'a aucunement dissimulé ses intentions. Déjà dans Mein Kampf, il annonce son intention d'éliminer la race juive. Et dans un discours de janvier 1939, il annonce que si une guerre mondiale éclate, il exterminera totalement les juifs.
À l'époque, une menace qu'on ne prend pas au sérieux.
Et pourtant, le Führer a déjà montré concrètement dans son pays que pour lui, les juifs n'étaient que des sous-hommes, persécutés et tenus en marge de la société. Et il ne va pas tarder à passer aux actes dès qu'il va attaquer son complice, Staline. Auparavant, enfin une parenthèse toutefois...
Quoi ?
Ben, les nazis, vous le savez sans doute, avaient décidé d'exterminer les malades mentaux.
Oui, d'ailleurs, ils ont commencé à passer à l'action.
Hein. En les gazant, c'est exact. Mais aussitôt, le clergé et une partie de la population ont protesté. Et Hitler a décidé de surseoir à cette politique d'extermination.
Ouais, je vois où vous voulez en venir, là. Si les Allemands et clergés s'étaient fermement opposés à l'extermination des Juifs, Hitler aurait peut-être fait marche arrière. Encore aurait-il fallu que la population allemande sache exactement quel était le sort pour les Juifs.
Oui, vous avez raison, et ça nous ramène directement à notre sujet. Alors, je vous réponds tout de suite. Il est certain qu'au début, la plus grande partie de la population allemande ignorait tout. Pour ces gens-là, les juifs raflés étaient envoyés à l'Est, sans doute dans des camps de travail forcé.
C'était déjà beaucoup, hein?
Bien sûr. Mais rapidement, la vérité s'est faite jour. Pourquoi, par exemple, ces juifs déportés ne donnaient plus jamais signe de vie? Et puis, les témoins sont devenus de plus en plus nombreux. Tous ces Allemands, policiers ou militaires qui ont assisté ou participé au massacre. On ne quitte pas des millions de personnes sans que ça se sache.
Oui, mais les tueurs étaient quand même tenus au secret.
Sans doute. Toutefois, des milliers d'Allemands ont été mêlés au génocide. Il était fatal qu'il y ait des fuites. Et puis, il y avait les populations civiles qui vivaient près des camps. Et ce n'est pas facile de dissimuler l'odeur de la mort ou de la chair brûlée. Et puis, il faudra encore parler des cheminots qui ont convoyé ces trains de la mort, non? Non, je vous assure, il était difficile de ne pas savoir.
En fait, c'est bien ce que vous voulez dire. Les Allemands ne voulaient pas savoir.
Exactement. Mmh. Bon, alors, venons-en au point qui nous intéresse aujourd'hui. Chez les Alliés, quels étaient les éléments d'information dont on disposait?
Pardonnez-moi, mais moi, je voudrais faire une parenthèse à mon tour. Hein. Quand les nazis ont-ils pris la décision d'exterminer systématiquement les juifs d'Europe?
Bah, je vous l'ai dit, l'idée, si je puis dire, c'était dans l'air depuis longtemps. Mais Hitler, occupé par la conduite de la guerre sur le front ouest, n'avait pas encore élaboré le plan. La décision a vraisemblablement été prise vers la fin de l'année 40, en même temps que la décision d'attaquer l'URSS. Et effectivement, ce sont d'abord les juifs soviétiques qui vont être les premières victimes de ce génocide.
En Ukraine d'abord, hein?
Et dans les pays baltes. Mmh. Tous les territoires conquis doivent être débarrassés de leurs juifs. Et aussi, car ils sont trop souvent oubliés, de leurs tziganes. À cet effet, des commandos spéciaux ont été formés, les sinistres Einsatzgruppen.
Qui les compose, hein?
Des SS et des membres de l'Orpo, c'est-à-dire la police d'ordre. Mais à l'occasion, ils sont secondés par des hommes de l'armée régulière, la Wehrmacht. Ils agissent derrière la ligne de front et sont chargés d'anéantir méthodiquement la population juive au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes.
Ouais, avec quels moyens, alors?
Leurs armes à feu, hommes, femmes, enfants sont fusillés. Parfois, ils sont disposés au bord des fosses qu'ils ont eux-mêmes creusées et dans lesquelles ils tombent après avoir été tués. Il suffit ensuite de recouvrir de terre ou de chaux vives les charniers.
Mmh. Et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces premiers massacres?
À la fin de l'année 1941, c'est-à-dire seulement quelques mois après le début de l'opération Barbarossa, plus de 500 000 juifs ont déjà été assassinés. Et à l'été 1942, on arrivera au chiffre d'1,5 million. Entre-temps, 15 hauts dignitaires nazis se sont réunis à Wannsee, en janvier 42. Et c'est au cours de cette conférence qu'est décidée la mise en œuvre, dans le plus grand secret, bien sûr, de ce qu'on va appeler la solution finale.
Ouais, c'est-à-dire l'extermination systématique des juifs européens. Avec le plein accord de Hitler.
Bah, évidemment. Ouais. C'est l'aboutissement d'un processus pratiquement inéluctable. Pour les nazis, la défaite de 1918 et l'effondrement qui s'en est suivi sont le fait des juifs. L'ennemi intérieur, comme ils disent.
T'es fou, hein?
Ah, complètement fou, je vous l'accorde. Mais Hitler en était persuadé. Cet ennemi intérieur, il faut donc s'en séparer d'une manière ou d'une autre. Et le Führer pense d'abord très sérieusement à une politique massive de transfert. Les juifs seraient par exemple déportés au Birobidjan soviétique où Staline a créé une république juive. D'autres imagineront, après la défaite française de 1940, de les envoyer à Madagascar. Mais Vichy s'y opposera.
Ouais, quand même.
Et enfin, les nazis penseront à stériliser les juifs.
Ouais. Ainsi, la race s'éteindra d'elle-même.
Oui, mais à Wannsee, la solution radicale qui s'impose, c'est l'extermination physique. Et déjà, on pense à industrialiser le massacre en créant des camps spécialisés dans l'extermination. Le plus grand d'entre eux étant installé en Pologne, à Auschwitz. Cette industrialisation du crime répond aussi, paradoxalement, à une raison humanitaire. Pas du côté des victimes, mais de celui des bourreaux.
Il faut expliquer, là.
Sur le front de l'Est, Himmler a tenu à assister en personne à la liquidation de plusieurs dizaines de juifs, selon les méthodes utilisées par les Einsatzgruppen.
Les fusillades.
Et cette grande âme estime que ce style d'exécution soumet les assassins à une trop grande tension psychologique. Et là, je vous assure que je n'invente absolument rien.
D'où la décision de recourir à d'autres méthodes.
Oui, les nazis pensent d'abord aux camions.
Ah oui, les gaz d'échappement.
Oui, ça, c'était inventé par Staline. Mais enfin, les juifs sont enfermés à l'arrière et par un tuyau, le pot d'échappement rejette directement les gaz à l'intérieur d'une cabine étanche. Mais l'asphyxie est relativement longue. Le camion doit en effet rouler un bon quart d'heure. Et puis, il y a le problème des corps dont il faut ensuite se débarrasser. Et c'est pourquoi germe dans l'esprit rationnel de ces tueurs l'idée d'utiliser le gaz. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Déjà, les malades mentaux ont été ainsi éliminés, je vous l'ai dit. Ouais.
Mais là, on va voir les choses en grand.
Oui, une première tentative a lieu fin 1941 au camp de Chelmno, une petite ville polonaise située près de Lodz. Et elle donne, si j'ose dire, toute satisfaction. Et c'est ainsi que sont conçues les chambres à gaz des camps d'extermination. chambre auxquelles on adjoindra des fours crématoires pour éliminer les corps des suppliciés. Et enfin, comble de l'horreur, on confiera le sale boulot, c'est-à-dire la récupération des corps, après le gazage, à d'autres déportés.
Oui. Toujours le souci de ménager la sensibilité des bourreaux. Hein.
Et c'est ainsi que la machine de mort se met en place à partir du printemps 42. Et elle va tourner à plein régime pratiquement jusqu'à la fin du Troisième Reich, où les assassins s'efforceront d'effacer toute trace de leur forfait en démantelant les installations des camps. Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, à la grande question. Qui savait ?
Qui savait, à l'extérieur de l'Allemagne et des pays occupés ?
Oui. La première information sérieuse provient de Moscou, quelques semaines seulement après l'invasion nazie. Au micro de Radio Moscou, plusieurs prestigieux intellectuels juifs d'Union soviétique évoquent les crimes commis par les Einsatzgruppen et parlent du programme d'extermination systématique des juifs.
Mmh. Oui. Et cette émission est captée en Occident ?
En effet, mais l'information n'est pas prise au sérieux.
Et pourquoi alors ?
Parce qu'elle vient de Moscou et que tout ce qui vient du RSS est suspect.
Revenons un instant sur cette conférence de Wannsee. Où a été décidée l'application de la solution finale? Voici ce que je lis dans le livre de Stéphane Courtois et Adam Reski, Qui savait quoi? Le procès-verbal de cette conférence, rédigé par Adolf Eichmann, chargé des affaires juives à la direction de la sécurité du Reich, expose, à l'aide des euphémismes consacrés par la pratique nazie, la nouvelle politique anti-juive du Reich. Avec l'autorisation du Führer, l'évacuation des juifs vers l'Est remplace l'émigration en tant que solution possible. Dans le cours de la solution finale, les Juifs, dûment encadrés, doivent être soumis au travail obligatoire à l'Est de la manière qui conviendra le mieux. Une grande partie d'entre eux disparaîtra sans doute par élimination naturelle. Les survivants, c'est-à-dire la fraction la plus résistante, devront être traités en conséquence. Fruit d'une sélection naturelle, ils pourraient, une fois libéré, formait le germe d'une reconstitution de la race juive. Au cours de l'application pratique de la solution finale, toute l'Europe, de l'Ouest à l'Est, doit être passée au peigne fin.
Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Si on ne prend pas au sérieux cette information de Radio Moscou, est-ce que parce qu'on pense que c'est sans doute de la propagande?
Oh, certainement. En outre, l'URSS était, il n'y a pas si longtemps encore, lié par un pacte avec l'Allemagne nazie.
Ouais.
Ça faisait donc beaucoup de raisons de se méfier. En outre, et il faut bien l'avouer, il circulait alors un flot d'informations pas toujours vérifiées et souvent contradictoires sur les sévices infligés aux juifs.
Ouais, d'où la méfiance. Hein.
Et même l'incrédulité. Et pourtant, les services de renseignement disposent, dès le commencement des massacres par les Einsatzgruppen, de plusieurs sources d'informations. Il y a d'abord des télégrammes que ces commandos de la mort envoient à leurs supérieurs pour rendre compte de leurs activités.
Quoi, des télégrammes, pas des télégrammes en clair?
Non, bien sûr que non, mais les tueurs utilisent un code assez ancien que les spécialistes anglais interceptent et n'ont aucun mal à déchiffrer. Ensuite, il y a les rapports très circonstanciés qu'un diplomate chilien envoie à son gouvernement. Des documents très crédibles, parce que ce consul est plutôt pro-nazi.
Ah oui, donc fiable.
Oui, parce qu'il raconte par le menu ce que lui confient ses amis allemands à propos des massacres perpétrés en Ukraine et dans les pays baltes. Ou encore sur la situation du ghetto de Varsovie, où les nazis vont concentrer près d'un demi-million de juifs dans des conditions parfaitement inhumaines.
Alors, des informations filtrent.
Oui, et qui finissent par parvenir aux États-Unis. Enfin, ces exécutions massives de juifs, même si elles ont parfois lieu dans des lieux isolés, comme des forêts, ne peuvent pas rester longtemps inaperçues. Et très vite, la résistance polonaise en fait état. En novembre 1941, par exemple, grâce à ces canaux, l'agence télégraphique juive peut annoncer que plus de 50 000 juifs ont été tués à Kiev. Information reprise à la BBC par le célèbre écrivain allemand exilé Thomas Mann.
On commence à savoir.
C'est exact. Et les révélations se multiplient sur les exactions commises par les Einsatzgruppen. Il en est ainsi du massacre de Babi Yar en septembre 1941, où plus de 33 000 juifs ont été abattus. Ces nouvelles d'exécution de masse sont relayées par les organisations juives, mais aussi par des sources d'informations qui passent par Budapest puis par Istanbul.
Donc, à l'Ouest, on ne peut plus rien ignorer.
C'est juste. Bon, soyons francs, ça n'émeut pas grand monde. Je dirais même plus, on y croit guère.
Et pourquoi alors?
Ça tient d'abord à la monstruosité du crime. Des massacres à une telle échelle, non, on n'arrive pas à imaginer. Et tenez, même les responsables sionistes installés à Jérusalem pensent qu'il s'agit d'actes isolés. Ensuite, il faut bien l'avouer, cette incrédulité est aussi nourrie par l'antisémitisme latent qui existe chez les élites anglo-saxonnes de l'époque.
Ouais, les histoires de juifs, quoi.
Et ces juifs, dit-on, ont une propension naturelle à exagérer, à se plaindre tout le temps. Bon, bien sûr, je grossis peut-être un petit peu le trait.
Ouais, tenez, devant tant d'informations concordantes.
Oui, je sais. Mais telle est pourtant la vérité. Et au début de 1942, lorsque les alliés se retrouvent à Londres pour parler de ces crimes, ils dénoncent les atrocités commises par les nazis, mais omettent de mentionner que les juifs sont les principales victimes de cette barbarie. Ça entraîne de vives protestations des organisations juives. Mais on leur répond qu'il n'y a pas lieu de mentionner spécifiquement les juifs. Les juifs polonais ou ukrainiens sont d'abord des citoyens polonais ou ukrainiens. Et pourtant, les informations qui proviennent d'Europe de l'Est se font de plus en plus précises.
Par exemple?
Au printemps 42, le Bund envoie un document très important à Londres.
Le Bund, il faut le rappeler, c'est le parti socialiste des juifs d'Europe de l'Est.
Tout à fait. Eh bien, donc, dans ce document, le Bund affirme que les nazis se livrent à une extermination systématique des juifs de Pologne et de Lituanie, et avec l'aide des bandes fascistes locales. Les socialistes donnent de nombreux détails et pour la première fois, ils font état des gazages effectués à Chelmo.
Et là encore, alors, quelle réaction?
L'incrédulité, toujours. Et cependant, la BBC diffuse le contenu de ce document.
Quand même, alors.
Ah oui, à Washington, ça commence à bouger, enfin. Le département d'État, c'est-à-dire le ministère états-unien des Affaires étrangères, décide même de lancer une enquête sur ces massacres. Il n'empêche que c'est toujours l'incrédulité qui prévaut. Au moins dans l'opinion occidentale.
L'opinion, mais ce que les dirigeants, eux, savent.
Ah, surtout les services de renseignement. C'est un des grands secrets de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, parce que nous en avons déjà parlé, les Britanniques, grâce en particulier à des informations fournies avant la guerre par le deuxième bureau français, se sont acharnés à percer les mystères de la fameuse machine Enigma.
Ouais, c'est-à-dire la machine à coder des Allemands.
Une machine très sophistiquée qui leur permettait de transmettre des ordres ou des messages en toute sécurité. Les Britanniques ont donc réuni dans un lieu ultra secret la crème de leurs mathématiciens et de leurs linguistes, des milliers de chercheurs.
Et ils ont réussi à leur enquête.
Oui, je passe les détails car nous avons déjà évoqué cette affaire. Mais dès 1940, cette formidable équipe a pu déchiffrer une partie des messages échangés entre l'état-major allemand et ses généraux. Mais, et c'est l'un des problèmes qui se posent en permanence aux services secrets, il fallait surtout éviter de donner la puce à l'oreille de l'ennemi en exploitant cette fabuleuse source de renseignements.
C'est-à-dire que les Allemands ne devaient pas savoir que leur code était cassé.
Et cette protection absolue du secret a parfois eu des conséquences dramatiques. Le bombardement de Coventry, par exemple.
Oui, parce que Churchill savait que la ville allait être bombardée.
Ah oui, mais s'il avait donné l'ordre d'évacuer la ville ou de prendre des mesures de défense, Berlin aurait aussitôt compris que ses communications n'étaient plus sécurisées. Par conséquent, Londres a laissé bombarder Coventry et plus de 500 Britanniques l'ont payé de leur vie.
Mais pour protéger ce grand secret.
Ah, cette source de renseignements appelée Ultra. Eh bien, de la même façon, les services britanniques ont assez vite obtenu des informations très détaillées sur ce qui se passait réellement à l'Est.
Le Holocauste.
En effet. Mais comme dans le cas de Coventry, il a été décidé de garder le silence. Même les rapports transmis au gouvernement ont été expurgés. Il fallait à tout prix protéger Ultra et éviter les fuites.
D'accord, mais à partir du moment où d'autres sources, autres qu'Ultra, font également état du programme nazi d'extermination, est-ce que le silence ou le scepticisme sont encore de mise? Parce que les services de renseignement, eux, savent que toutes ces informations qui proviennent de l'Est sont vraies.
Ouais, c'est effectivement une question troublante. Les autorités pouvaient désormais faire état de la politique d'extermination entreprise par les nazis sans brûler Ultra. Or, la position officielle britannique continue, non pas à nier, mais à minorer le massacre.
L'accusation d'exagération de la part des juifs, toujours.
Et toujours une excessive prudence. Le Foreign Office n'infirme ni ne confirme.
Très hypocrite tout ça,
hein? Oui, je vous l'accorde. Et cela, au moment même où de nouveaux renseignements arrivent à Londres et à Washington. Le rapport le plus important est signé par le docteur Gerhard Riegner, le représentant du Congrès juif mondial à Genève. Riegner a eu un contact avec un industriel allemand secrètement anti-nazi, mais suffisamment bien introduit dans les plus hautes sphères du régime hitlérien.
Mais qui ce...
On ne saura jamais son nom, même après la guerre. Mais il aurait pu s'agir d'un homme qui aurait dirigé une entreprise près du camp d'Auschwitz. Car on travaillait aussi à Auschwitz, les hommes valides, enfin, tant qu'il le restait. Ensuite, ils étaient promis aux chambres à gaz, comme les femmes, les vieillards et les enfants. Quoi qu'il en soit, cet industriel anti-nazi fournit à Riegner une information capitale qui accrédite son témoignage. D'après lui, les juifs sont assassinés au moyen d'un dérivé de l'acide prussique.
Un débat a longtemps opposé les historiens sur la mise en œuvre de la Shoah.
D'un côté, il y a ceux, les intentionnalistes, qui affirmaient que Hitler avait méthodiquement appliqué un programme d'extermination élaboré dès l'avant-guerre. D'autres, au contraire, prétendaient que la Shoah découlait d'une série de décisions prises par les dirigeants nazis sans véritable coordination. Le texte suivant donne raison sans aucune ambiguïté au premier. Je l'ai trouvé dans le journal de Goebbels. Le propagandiste du Troisième Reich écrit en effet ceci fin 1941. Pour ce qui est de la question juive, Hitler a décidé d'accélérer les choses. Il a promis aux juifs que s'ils causaient une autre guerre mondiale, ils expérimenteraient leur propre anéantissement. Ce n'est pas une vaine menace. La guerre mondiale s'approche et l'annihilation des juifs doit en être l'inévitable conséquence. Il faut traiter ce sujet sans sentimentalisme. Nous ne sommes pas ici pour sympathiser avec les juifs, mais avec notre peuple allemand.
L'acide prussique ou cyanhydrique est utilisé pour détruire la vermine. L'utilisation de ce puissant poison commercialisé par Egger Farben sous le nom de Zyklon B ne doit rien au hasard. Pour les nazis, les juifs sont assimilés à la vermine. Mais je reviens au rapport du docteur Regner. Très précis. Il indique que 3 à 4 millions de juifs européens vont être exterminés.
Mais sans compter ceux qui l'ont déjà été par d'autres moyens. Et ce rapport, où atterrit-il?
Via les services consulaires anglo-saxons de Genève qui en prennent connaissance. Il est transmis à ses destinataires anglais et américains, des représentants du Congrès juif mondial.
Alors ça va être encore une nouvelle confirmation pour Londres et pour Washington.
Certainement. Et certaines de ces informations sont reprises par la presse. Le New York Times, par exemple. Enfin, attention, pas en première page quand même. Et pourtant, convenez-en, l'annonce qu'il existe une véritable industrie allemande de la mort avec chambres à gaz et fours crématoires est quand même une information de première importance, non?
Oui, mais ça veut dire que les journalistes sont aussi timorés que leurs gouvernants.
Et que le doute peut-être subsiste encore. Un doute encouragé par ces mêmes gouvernants.
Oui, mais pourquoi?
Je vous propose de répondre à cette question, mais un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Mais sans vouloir excuser les uns et les autres, il faut tout de même se rappeler ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale.
Quoi?
Les méfaits de la propagande. En Grande-Bretagne, tout particulièrement. La presse, intoxiquée par les autorités, avait alors prétendu que les soldats allemands avaient massacré des bébés belges.
Ce qui est faux.
Parfaitement faux, on l'a appris plus tard. Cette affaire avait durablement marqué les journalistes anglo-saxons.
Ouais, qui étaient donc là, enclins à se méfier, à cause de ce bourrage de crâne dont ils avaient déjà été victimes.
Oui, d'autant plus que les chiffres avancés semblaient incroyables. Il n'y avait pas d'exemple dans l'histoire d'un tel massacre.
Si, les Arméniens en 1915.
Ah oui, à l'époque, on le savait à peine.
Ouais. Donc c'est vrai, c'est ce que vous voulez, on pouvait nourrir des doutes.
Je le pense sincèrement, oui. Enfin, poursuivons. Deux grandes institutions internationales sont également très précisément informées. La Croix-Rouge, d'abord. Ses représentants dans les territoires occupés par les nazis envoient des rapports très circonstanciés. Mais l'organisation, arguant de sa neutralité, interdit à ses membres d'évoquer publiquement les massacres. Ceux qui le font agissent donc à titre privé. Ce sera le cas du docteur Bugart, qui informera le consul états-unien à Genève.
Et la deuxième institution, alors?
L'Église catholique, naturellement. En Europe de l'Est, elle dispose de milliers de prêtres qui peuvent être autant d'informateurs. Et s'il y a des résistances, en particulier de la part de la hiérarchie catholique allemande, beaucoup d'ecclésiastiques donnent l'alerte. Dès mars 1942, le nonce de Bratislava annonce que les juifs vont être exterminés.
Ouais. Donc, au Vatican, on sait.
Oui, incontestablement. Cependant, là aussi, on s'abstiendra de le confirmer. Officiellement, en tout cas, car le Vatican communiquera à Washington ses propres informations sur le génocide qui est en train de s'accomplir.
Et cette position entraînera la polémique que l'on sait sur l'attitude de Pie XII quand on sort des juifs.
Bien évidemment. J'ajoute, parce que c'est quand même extraordinaire, qu'on va bientôt disposer à l'Ouest d'un témoignage de première main, un témoignage direct.
Ah, c'est à raconter, là.
C'est l'histoire d'un coursier du gouvernement polonais en exil, Jean Karski, connu aussi sous le nom de Kozelewski. Retourné clandestinement dans son pays, après avoir été arrêté par la Gestapo et libéré par des résistants polonais, il a réussi l'exploit de pénétrer dans le camp d'extermination de Belzec.
Mais comment...
En empruntant l'uniforme d'un gardien estonien. Et là, il a vu de ses propres yeux l'horreur, les chambres à gaz, les cadavres par centaines, les crématoires. Le plus étonnant, c'est qu'il a pu ressortir, et ensuite traverser l'Allemagne et rejoindre la France, et grâce à un réseau polonais, franchir les Pyrénées pour ensuite gagner Londres et rendre compte à son gouvernement, puis aux autorités britanniques et aux dirigeants de la communauté juive.
Mmh. Alors là, le doute n'était plus permis.
En effet, car Karski était un témoin fiable.
Mmh. Et son retour se situe quand, là?
Il revient à Londres en novembre 1942. Il sera reçu un peu plus tard par le président Roosevelt. Ce n'est sans doute pas par hasard si très vite après, les Alliés prennent enfin clairement position.
De quelle façon?
En décembre 1942, plusieurs gouvernements alliés auxquels s'associe le comité de la France libre signent une importante déclaration au terme de laquelle ils stigmatisent les agissements des autorités allemandes qui organisent les massacres de masse.
Mmh. Et cette fois-ci, on parle des Juifs?
Oui, explicitement. Et non seulement cette déclaration cite des chiffres, plusieurs centaines de milliers de victimes innocentes, mais elle affirme que les responsables auront à répondre de leurs crimes. Mmh.
Vous avez dit que le comité de la France libre avait été associé à cette déclaration. Donc, le général de Gaulle savait lui aussi.
Mais comme Roosevelt, comme Churchill, c'est évident.
Alors, pourquoi en a-t-il plus tard si peu parlé?
Bah écoutez, c'est pas à moi de défendre le général, mais je pense qu'il n'a pas voulu faire de différence entre déportés. Pour lui, les hommes et femmes envoyés en Allemagne étaient avant tout des Français, victimes de la politique de Vichy. Toutefois, vous avez raison de le remarquer, notre pays a trop longtemps passé sous silence le fait que les nazis s'étaient spécifiquement attaqués aux Juifs. En outre, pour un homme comme de Gaulle, l'important c'était d'abord la capitulation de 1940 et la collaboration avec l'ennemi.
Mais le reste, y compris la déportation des Juifs, n'en était qu'une conséquence.
Dans l'esprit du général, oui. Même si on peut regretter que la grande voix de Gaulle n'ait pas attaché une plus grande importance à cette horreur. Enfin, passons, si vous voulez bien. Malgré la déclaration courageuse des Alliés en 1942, beaucoup de gens, à commencer par des dirigeants, des intellectuels éminents, n'arrivent pas à réaliser l'ampleur du drame qui se déroule à l'Est. Certes, ils ne doutent pas de la brutalité des méthodes nazies, mais exterminer tout un peuple, non, ça, ils n'arrivent pas à y croire.
Une parenthèse ici qui accrédite les propos de M. X. Voici ce qu'écrit Raymond Aron dans ses mémoires. Le génocide, qu'en savions-nous à Londres? Au niveau de la conscience claire, ma perception était à peu près la suivante. Les camps de concentration étaient cruels, dirigés par des gardes-chiourmes recrutés non parmi les politiques, mais parmi les criminels de droit commun. La mortalité y était forte, mais les chambres à gaz, l'assassinat industriel d'êtres humains, non. Je l'avoue, je ne les ai pas imaginés, et parce que je ne pouvais pas les imaginer, je ne les ai pas su.
Il y avait donc une sorte de blocage, malgré les informations toujours plus nombreuses, toujours plus précises, qui parvenaient à l'Ouest en dépit du secret dont les nazis entouraient leur crime.
Et à l'Est, alors?
Bon, on est aussi parfaitement informés. L'URSS n'a d'ailleurs pas tardé à s'associer à la déclaration de décembre 42, qui promettait des représailles contre les criminels de guerre, sans toutefois mentionner le cas des Juifs. Pas avant 1944, en tout cas. C'est l'année aussi où, à l'Ouest, on obtiendra un rapport très détaillé sur le fonctionnement du camp d'Auschwitz. Mais pour l'opinion, il faudra attendre la libération des camps pour prendre la vraie mesure du génocide.
Mmh. Alors, un peu plus tôt, vous m'avez dit que vous expliqueriez pourquoi les Alliés ont tant tardé à condamner et à réagir autrement que par des déclarations.
Volontiers. Et d'abord, pouvait-on agir et s'opposer matériellement à l'Holocauste? Je vous propose de vous en parler dans la suite de cet entretien la semaine prochaine, si vous voulez bien.
Rendez-vous est pris, ouais.
Alors, comment expliquer les atermoiements et même les dénégations? Il y a deux raisons. La première, la plus compréhensible, c'est que le souci premier des Alliés est la conduite de la guerre. Et uniquement cela. Mais nous y reviendrons bientôt. La deuxième raison est beaucoup plus moins reluisante. C'est la question des réfugiés.
Expliquez.
Les Anglo-Saxons auraient très bien pu proposer aux Allemands de recueillir les Juifs condamnés à être exterminés, ou même à tenter des opérations militaires pour tenter d'en sauver un certain nombre. En Bulgarie ou en Hongrie, par exemple, mais se posait aussitôt la question du sort de ces personnes. Ces réfugiés, comme on les appelait, très hypocrites.
Ouais, c'était qu'en faire.
C'est ça. Les États-Unis, qui avaient instauré une politique de quotas pour leurs émigrés, n'en voulaient pas. Quant à la Grande-Bretagne, elle redoutait que ces Juifs n'aillent s'installer en Palestine.
Mais parce que la Palestine, il faut le rappeler, était alors sous mandat britannique.
Et l'émigration des Juifs entre les deux guerres avait déjà suscité une hostilité certaine des autochtones arabes.
Et alors l'arrivée d'autres Juifs risquait de provoquer des troubles.
Et surtout de menacer la mainmise britannique sur la région. Et c'est pourquoi les réfugiés ont été abandonnés à leur triste sort.
La semaine prochaine, Monsieur X répond donc à la question « Que pouvait-on faire ?» En attendant, revenons un instant sur l'incrédulité ou le scepticisme des dirigeants occidentaux
lorsqu'ils ont été informés en pleine guerre de l'entreprise d'extermination des Juifs par les nazis. En 1988, Gerhard Rigner, le représentant du Congrès juif mondial, un des premiers hommes à avoir pu informer le camp occidental, s'en explique très simplement devant l'historien André Caspi, je le cite. Mais on n'a pas cru pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y avait pas eu de précédent. Certains dirigeants juifs restaient sceptiques. Deuxièmement, on avait affaire aux mensonges de la propagande de la Première Guerre mondiale. Troisièmement, le secret. Ils, c'est-à-dire les nazis, ont inventé un langage pour le cacher. Quatrièmement, il y avait de l'antisémitisme du côté allié. Et l'antisémitisme était fort. Cinquièmement, ce n'était pas compréhensible. Un être humain normal ne pouvait pas comprendre. Ce texte a été publié par la revue L'Histoire en 1989. Oui, ils savaient. Je veux parler des principaux dirigeants politiques au pouvoir pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ignoraient rien du sort réservé aux Juifs des territoires occupés par les nazis. Et cela, au moins depuis 1942, c'est-à-dire au moment où des informations précises et concordantes n'ont plus permis de douter. La Croix-Rouge, le Vatican, savaient aussi. Alors, pourquoi autant de silence? Et surtout, pourquoi rien n'a été fait pour empêcher que l'Holocauste ne se perpétue jusqu'à la fin de la guerre? Mais était-il possible d'agir? C'est essentiellement à cette question que se propose de répondre aujourd'hui M. X. Un rappel auparavant, derrière les réticences des alliés à reconnaître que les nazis exterminaient systématiquement les juifs des territoires occupés, il y avait un motif moins avouable, la peur que le Troisième Reich ne se débarrasse de ses juifs en les envoyant chez eux, ou bien encore en Palestine, où la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, se refusait à les accueillir pour ne pas attiser la colère des Arabes. Il est donc clair que la question juive n'était pas une priorité pour les alliés, qui entendaient concentrer tous leurs efforts sur la conduite de la guerre.
Bon, je ne veux pas revenir sur la première partie de notre entretien sur ce douloureux sujet, mais il faut bien comprendre les contradictions dans lesquelles se débattaient les alliés. Je dis bien comprendre et pas forcément excuser.
Alors, expliquez alors.
Volontiers. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, avant Vichy, les Juifs étaient bien heureusement considérés comme des citoyens semblables aux autres.
Ce qui n'empêchait pas l'existence d'un antisémitisme latent. Hein.
Bon, vous avez raison, il y a des abrutis partout, mais enfin, laissez-moi poursuivre. Par conséquent, au nom de cette conception libérale et antiraciste, les gouvernements alliés ont longtemps refusé de reconnaître la spécificité de l'extermination des Juifs. Ils considéraient que les victimes étaient d'abord des citoyens des pays où ils résidaient.
Mais est-ce que c'était pas un peu hypocrite?
Oui, bon, je vous l'accorde. Et le fait de ne pas dénoncer ouvertement le génocide, au moins jusqu'à la fin 1942, a eu de graves conséquences. Si les Juifs européens avaient été avertis par des émissions de radio, par exemple, du danger qui les menaçait, certains d'entre eux auraient pu échapper à la mort.
En se cachant?
Oui. N'oubliez pas que pas mal de Juifs de France raflés en juillet 42 n'ont même pas essayé de fuir les agents de police qui venaient les arrêter, parce qu'ils ignoraient totalement ce qui risquait de leur arriver. S'ils avaient su, ils auraient essayé de se dissimuler et peut-être même de se rebeller.
Et quitter le pays peut-être.
Aussi. Ouais. Et derrière ce silence des alliés, il y avait aussi autre chose. Ils ne voulaient pas être accusés par leurs opinions publiques respectives de faire la guerre pour les Juifs.
Ouais, toujours à cause de l'antisémitisme qui persistait dans les sociétés occidentales.
Exactement. D'autant que la propagande nazie parlait de guerre juive. C'est-à-dire d'une guerre suscitée par les Juifs et conduite par eux.
Et pour eux.
Oui, c'était très vicieux. Et ça explique en partie la pusillanimité des alliés.
Ouais,
et
leur passivité.
Leur passivité, oui. À noter que pendant très longtemps, on ne se posera pas cette question. C'est seulement dans les années 70 que des historiens et des personnalités comme Elie Wiesel accuseront les alliés, et particulièrement le président Roosevelt, de n'avoir rien fait pour arrêter le processus d'extermination des Juifs européens.
C'est vrai.
La question est très difficile. Alors, il vaut mieux avancer pas à pas. Au début de 1943, la presse anglo-saxonne publie des informations de plus en plus détaillées sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Ce qui, entre parenthèses, réduit à néant les arguments de ceux qui prétendront avoir découvert la vérité après la libération des camps.
Oui, seuls ceux qui ne voulaient pas savoir sont demeurés dans l'ignorance.
Oui, enfin, c'est ce que je pense. Songez par exemple que plus de 250 parlementaires britanniques signent alors une motion demandant que des mesures immédiates soient prises afin de venir en aide aux personnes en danger de massacre.
En 43, donc.
Ouais. Bon, une telle initiative ne peut pas demeurer inaperçue. Au même moment, une manifestation monstre réunit à New York des dizaines de milliers d'Américains anti-nazis qui exigent que l'on mette fin aux agissements criminels d'Hitler.
Alors, réaction des gouvernements ?
Anglais et Américains ne peuvent pas rester inertes, car même les autorités religieuses haussent le ton. En Grande-Bretagne, l'archevêque de Canterbury supplie le gouvernement de sauver les Juifs et déplore les mois perdus. Alors, Washington et Londres décident d'organiser une conférence sur ce qu'on appelle pudiquement la question des réfugiés.
Et pas des Juifs.
Non, c'est très significatif. Au cours des conversations préalables à la tenue de cette conférence qui aura lieu aux Bermudes, les premières difficultés surgissent. En particulier sur la question des 60 000 Juifs bulgares. Malgré les pressions allemandes, ils n'ont pas encore été déportés et peuvent donc être toujours sauvés. Mais le très distingué ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, Anthony Eden, émet des objections.
Attends, avant de voir pourquoi, là, quelle était la situation de ces Juifs bulgares ?
Elle était singulière. Le gouvernement et le roi, bien qu'ayant fait adopter un statut très contraignant pour les Juifs, s'étaient toujours opposés à leur déportation. Par contre, dans les deux régions, la Thrace et la Macédoine, que les Allemands leur avaient concédées, en échange de leur alliance, les Bulgares ont participé à la déportation des Juifs qui s'y trouvaient vers Treblinka.
Mmh. Mais, si je comprends bien, ils ne voulaient pas qu'on touche à leurs nationaux, c'est ça ?
Oui. Toutefois, il était évident que les nazis pouvaient un jour ou l'autre les y contraindre. Et justement, en mars 43, c'est-à-dire au moment où les Alliés préparaient la conférence des Bermudes, le gouvernement envisageait un vaste plan visant à livrer leurs Juifs aux nazis.
Mmh. Donc il fallait faire vite, et vous m'avez dit que Anthony Eden n'était pas d'accord. Avec quels arguments ?
Le chef du Foreign Office dit en substance que si l'on obtient des Bulgares la sortie de leurs Juifs, ça donnera des idées aux autres.
Aux autres Juifs, quoi.
Bah, évidemment.
C'est parfaitement cynique.
Oui. Or, dit encore Eden, que ferons-nous de ces Juifs bulgares ? Qui acceptera de les accueillir ? Ce n'est pas tout, poursuivit le ministre. Imaginons que Hitler nous prenne au mot. Ce sont des centaines de milliers, peut-être des millions de Juifs dont il faudra s'occuper. Et parmi eux, Hitler glissera sans doute des espions.
Ouais. Pas question de venir en aide aux Juifs bulgares, quoi.
C'est ça. En outre, mais ça, nous en avons parlé la semaine passée, il y avait chez Anthony Eden la peur de voir tous ces gens débarquer en Palestine.
Pour en terminer quand même avec l'histoire des Juifs bulgares, là, que sont-ils devenus ?
Eh bien, la préparation de ce plan de déportation a provoqué une grande émotion dans le pays. Des personnalités politiques et religieuses ont protesté. Le roi Boris aussi, tant et si bien que le gouvernement bulgare a renoncé à mettre en œuvre son funeste projet. Ce qui est la preuve qu'on pouvait parfois dire non.
Ouais, ce qu'on n'a pas fait le gouvernement du maréchal Pétain.
Ben ça, j'allais le dire. Enfin, revenons à cette conférence des Bermudes. On pouvait au moins en attendre que les alliés en profitent pour lancer un appel à Hitler, lui demandant de libérer les Juifs, promis à l'extermination. Mais autant à Londres qu'à Washington, on n'y est pas décidé.
Toujours la crainte là, de voir déferler les Juifs dans leur pays.
Et un conseiller de la Maison Blanche le dit, crûment. Si ces réfugiés venaient chez nous, ils représenteraient un fardeau pour les États-Unis. Fardeau qui contrarierait notre effort de guerre. Et un autre, un type du FBI, je crois, est même allé jusqu'à soupçonner Hitler de manœuvrer les organisations juives qui faisaient pression sur le gouvernement états-unien pour qu'il agisse.
Ouais. C'est assez énorme. Hein.
Oui. En tout cas, la plupart des représentants des pays alliés excluent qu'on lance un appel à Hitler au prétexte qu'on ne négocie pas avec Hitler.
Ouais. Mais quand même, un appel, c'est pas une négociation.
Sans doute. Mais au cas très improbable, où Hitler aurait accepté de libérer des Juifs, il aurait bien fallu prendre langue avec les nazis, ne serait-ce que pour organiser le transport de ces réfugiés.
Mmh. Et selon vous, alors, cet appel à la libération des Juifs aurait-il pu avoir des effets positifs ?
Et enrayer le génocide ?
Ouais.
En Allemagne et dans les territoires occupés, certainement pas. Mais cet appel aurait peut-être fait réfléchir les dirigeants des pays européens alliés à l'Allemagne. D'autant que les armées du Troisième Reich connaissaient des revers de plus en plus importants et que la perspective d'une défaite nazie apparaissait de plus en plus crédible. Mais
surtout après Stalingrad.
Hein. Un tel appel aurait aussi décidé certains pays neutres à accueillir des Juifs.
Ouais. Donc, pour revenir un tout petit peu en arrière, cette conférence se conclut par un échec.
Oui, parce qu'il a été décidé de ne rien faire.
Et donc d'abandonner les Juifs à leur sinistre sort.
Ben, c'est malheureusement la vérité. Or, cette année 1943 sera l'une des pires. Elle verra entre autres la liquidation de la plupart des ghettos de Pologne et d'Union soviétique. Et les camps d'extermination tourneront à plein régime. Et pourtant, les États-Unis vont quand même se ressaisir.
Comment et quand,
Un fonctionnaire du département d'État, un certain Josiah Dubois, prépare un rapport exhaustif recensant tout ce que l'on sait des crimes des nazis. Il y ajoute même des éléments très embarrassants sur les manœuvres de certains hauts fonctionnaires états-uniens qui ont sciemment censuré des informations sur le génocide.
Ah oui. Et ce rapport est destiné à qui ?
Au président Roosevelt lui-même. Et malgré l'intervention de conseillers proches de la Maison-Blanche, ce Dubois arrive à ses fins. Il faut dire qu'il a préalablement menacé de démissionner et de rendre son rapport public.
Mmh. Roosevelt prend donc connaissance de ce document, hein ?
Oui, oui, à la fin de 1943. Il faut reconnaître qu'il ne tarde pas à réagir. Dès le mois de janvier 1944, il crée le WRB, le War Refugee Board, un organisme dont la vocation est de venir en aide aux victimes du nazisme.
Avec quel résultat ?
Le WRB permettra de sauver des milliers de vies humaines. Beaucoup de juifs roumains lui devront d'échapper à la mort.
Mais n'est-ce pas un peu tard, là ?
Certainement. Toutefois, le gouvernement américain sera le seul à agir ainsi, il faut le souligner. Cependant, Washington est soumis à d'autres pressions. Pourquoi ? Puisqu'on connaît maintenant l'emplacement et le fonctionnement des camps de la mort, ne pas intervenir directement pour arrêter le génocide.
Militairement, vous voulez dire ?
Oui, oui, oui. En effectuant des bombardements ciblés. C'est alors la grande question qui se pose au gouvernement allié.
Dans un livre passionnant paru récemment chez Albin Michel, Pacte avec le diable, Fabrizio Calvi analyse l'attitude des États-Unis face à la Shoah. J'en extrais ce passage où il est question de la conférence des Bermudes. Une plongée dans les archives personnelles du directeur du FBI, J. Edgar Hoover, révèle ainsi la nature des enjeux aux États-Unis. Le directeur du FBI suivait avec une attention particulière les travaux de la conférence. Le FBI veut savoir quelle position adopter dans la période actuelle au cours de laquelle différents groupes de pression déploient d'énormes efforts pour introduire aux États-Unis de très nombreux groupes de réfugiés. Un agent du FBI se procure le rapport du secrétaire d'État, Cordell Hull. Hoover, qui a pour mission de veiller à la sécurité du territoire américain, peut être rassuré. Comme on pouvait s'y attendre, le secrétaire d'État plaide pour une politique très conservatrice en matière d'immigration. Quelques jours plus tard, le président Roosevelt renvoie à Cordell Hull son texte annoté dans la marge. Là encore, Hoover pousse un soupir de soulagement. Dans sa réponse, le président affirme que les lois ne doivent pas être changées et qu'il ne faut pas toucher à l'actuelle politique d'immigration. Le président a également souligné « Les États-Unis ne sont pas en mesure de pouvoir s'occuper d'un grand nombre de personnes munies de visas temporaires. »
Vous avez dit que les Alliés connaissaient parfaitement l'emplacement des camps.
Oui, oui, les pilotes avaient même photographié Auschwitz au printemps 44. Les documents ont été publiés il n'y a pas si longtemps.
C'est exact, mais quand même, avec de telles photographies aériennes, est-ce qu'on pouvait comprendre comment fonctionnait le camp d'extermination ?
Ce n'était quand même pas facile, je vous l'accorde, d'interpréter ces photos et de situer les installations d'extermination.
Oui, mais enfin, on pouvait recouper parce qu'il y avait les informations là, transmises par la résistance polonaise.
Oui, mais enfin, cependant, voyons le point essentiel. Était-il matériellement possible de bombarder Auschwitz ?
Mais bombarder quoi d'abord ? Les bâtiments des déportés, on risque de faire des victimes supplémentaires, ou alors uniquement les chambres à gaz et les fours crématoires, à condition de les avoir localisés. Et puis les aviateurs pouvaient-ils cibler spécifiquement ces installations ?
Oui, vous avez raison de poser toutes ces questions. J'y répondrai, je vous le promets. Mais je reviens à ce que je vous disais. Un bombardement était-il possible ? Un bombardement que les organisations juives réclamaient à corps et à cri aux gouvernements alliés. Les politiques s'en sont prudemment remis aux militaires. Et ceux-ci ont répondu par la négative.
Avec quels arguments, là ?
La distance, d'abord. Les forteresses volantes basées en Grande-Bretagne devaient effectuer un aller-retour de 3200 km au-dessus du territoire ennemi. Trop dangereux, jugent les militaires. Ce qui n'est pas tout à fait exact, puisque les alliés disposent alors de la maîtrise du ciel.
En toute façon, il y a quand même la DCA ennemie. Hein.
Sans doute, mais les bombardiers volent très haut et sont très peu vulnérables. Non, la vraie raison du refus se trouve ailleurs, en réalité. Les états-majors alliés ne veulent pas distraire de leurs effectifs des bombardiers qui sont utiles ailleurs.
Bref, les camps d'extermination ne sont pas des objectifs militaires.
C'est ça, c'est la vérité.
Au fait, il était plus facile à Staline d'agir, hein ?
À cause de la distance, ben oui, c'est juste, oui. Les bases aériennes soviétiques se trouvaient plus près des camps situés en Pologne, mais apparemment les anglo-saxons ne l'ont pas demandé à leur grand allié de l'Est. En fait, tout ça, c'était une affaire de militaires. Il semble bien que les demandes de bombardement d'Auschwitz ne sont pas remontées jusqu'à la Maison Blanche. Or, bientôt, les forces alliées vont faire la preuve qu'elles sont en mesure de frapper Auschwitz.
C'est-à-dire ?
En juillet 1944, une formidable armada de plusieurs centaines de bombardiers décolle des nouvelles bases aériennes installées en Italie, direction la Pologne orientale.
Les camps, alors ?
Non, un complexe industriel situé à quelques dizaines de kilomètres. Ce faisant, les forteresses volantes vont pratiquement survoler Auschwitz. D'autres bombardements suivront au moins jusqu'au mois de novembre, mieux, fin août. Les appareils alliés vont attaquer les installations industrielles proches d'Auschwitz.
Et où travaillent les déportés des camps, hein ?
Oui, ceux qui ont été jugés valides et qui ne sont pas promis à une extermination immédiate. Cette usine IG Farben, qui fabrique du caoutchouc synthétique, est frappée par un déluge de bombes. Plusieurs centaines d'énormes bombes de 500 livres. Et la DCA allemande, censée protéger le complexe industriel d'Auschwitz-Birkenau, demeure impuissante.
Ah ben, ça signifie donc qu'on peut bombarder à Auschwitz. Hein. Ah,
mais les généraux répliquent que les forteresses volantes, qui volent entre 6000 et 8000 mètres d'altitude, sont incapables d'opérer des bombardements précis sur les chambres à gaz ou les fours crématoires. Par conséquent, il y aurait eu beaucoup de dégâts collatéraux, comme on dit aujourd'hui.
De nombreux morts, quoi.
Ouais. Et sans doute des milliers. À Auschwitz, Birkenau, se trouvaient alors plus de 100 000 détenus et les convois ne cessaient d'arriver. Un bombardement du camp aurait donc provoqué un véritable massacre. Et ce n'est pas tout. Que seraient devenus les prisonniers qui auraient profité du bombardement pour fuir ?
Pardonnez-moi, mais ça c'est un argument parfaitement hypocrite, puisque ces déportés étaient de toute façon destinés à périr dans les chambres à gaz.
Oui, je vous le concède. En fait, ce que les militaires alliés redoutaient par-dessus tout, c'était de nourrir la propagande nazie en étant accusés d'avoir provoqué des massacres. Et d'ailleurs, les organisations juives elles-mêmes étaient opposées à de telles opérations de bombardement massif.
Et parce que les juifs auraient été les premières victimes.
En effet. Ouais. Et elles ont proposé une autre solution. La ligne du front de l'Est se rapprochant, pourquoi l'armée rouge n'aurait-elle pas pu parachuter des troupes dans le secteur d'Auschwitz ?
Réaction de Staline ?
Ce que veut le maître du Kremlin, c'est que l'armée rouge avance le plus vite possible. La question des camps n'est donc pas primordiale. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que les soldats soviétiques découvriront Auschwitz presque par hasard en janvier 1945. Mmh. Autre chose, puisque les forteresses volantes, à cause de l'altitude à laquelle elles volaient, étaient incapables d'opérer des bombardements précis, pourquoi ne pas utiliser des appareils plus légers ?
Ces avions existaient, hein ?
Bien sûr. Les Britanniques disposaient du fameux Mosquito. Et les Américains possédaient aussi des bombardiers légers, certains basés dans des territoires yougoslaves libérés. Et ils avaient un rayon d'action suffisant pour atteindre Auschwitz, par exemple. Ces appareils avaient fait la preuve de leur maniabilité, de leur efficacité en détruisant les murs de la prison d'Amiens où étaient enfermés des résistants.
Mmh. Leurs pilotes peuvent donc réitérer ce genre d'exploit à Auschwitz ?
À condition d'avoir exactement repéré les cibles, c'est-à-dire les installations de la mise à mort des Juifs. Mais ces petits bombardiers sont plus vulnérables et risquent d'être touchés par la DCA. Donc, une fois de plus, on renonce.
Et on abandonne les Juifs ?
Oui, malheureusement.
Et si on avait détruit en amont tout ce réseau de voies ferrées qui permettait aux nazis de convoyer les déportés ?
On y a pensé, évidemment, mais les généraux ont objecté que les nazis procéderaient très vite à la réparation de ces voies. Par conséquent, il aurait fallu recommencer et recommencer. Or, la conduite de la guerre ne permettait pas un tel éparpillement des forces aériennes. La priorité, c'était de vaincre, et donc de concentrer tous les moyens dans la bataille qui se jouait sur le territoire français après le débarquement de juin 1944.
Un argument défendable, selon vous ?
Franchement, je le crois. Même si j'ai souligné toutes les réserves que m'inspirait l'excessive prudence des chefs militaires qui désiraient que rien ne vienne retarder la victoire.
Ouais, et le sauvetage des Juifs pouvait être une cause de retard.
Les stratèges alliés le pensaient. C'est tout ce que je peux dire. Mais il n'y avait pas que cette question du bombardement d'Auschwitz. En cette même année, 1944, les Alliés sont confrontés à un autre grave problème, celui des Juifs hongrois. Presque 800 000 personnes qui sont en danger de mort depuis que les troupes nazies ont envahi la Hongrie en mars. Car à peine arrivés, les Allemands, sous la haute autorité d'Adolf Eichmann, commencent à recenser les Juifs, un préalable évident à leur déportation vers les camps d'extermination.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
L'historien André Caspi essaie de tirer les conclusions du débat dans un article de la revue L'Histoire intitulé « Fallait-il bombarder Auschwitz ?» Je cite. Auschwitz a pris dans les consciences contemporaines, valeur de symbole. Détruire Auschwitz serait arrêter le génocide alors que 80% des juifs ont été assassinés ailleurs. Le camp symbolise les lieux maudits, le crime contre l'humanité, le mal absolu. De là l'insistance que mettent des historiens sur la situation de l'été 44, comme s'ils oubliaient ce qui s'est passé auparavant et ce qui se passe ailleurs. Les Américains éprouvent tout particulièrement le sentiment d'une infinie culpabilité. Ils sont aujourd'hui les citoyens d'une superpuissance qui peut agir sur la planète entière. Ils en déduisent qu'ils ont des droits et des devoirs. Ils auraient souhaité qu'il en fût ainsi au cours de la Seconde Guerre mondiale, que les plus grands malheurs fussent évités grâce à leur intervention. Ils adhèrent volontiers au mythe du sauvetage et refont l'histoire. Naturellement, ils estiment que le recours à la technologie la plus sophistiquée, en l'occurrence les forces aériennes et leurs frappes chirurgicales, auraient permis de trouver les solutions les plus efficaces.
Avant d'évoquer la tragique histoire des Juifs hongrois, je dois d'abord vous parler d'un réseau d'espionnage implanté en Europe de l'Est. Le réseau Dockwood, en anglais c'est le Cornouiller. Et l'une des particularités de ce réseau, intégré à l'OSS américain, c'est que tous ses membres avaient pour nom de code des noms de fleurs. Dockwood, le chef du réseau, s'appelle en réalité Schwartz.
Qui est-il ?
Ce juif tchèque a d'abord collaboré avec les services de renseignement de son pays. Puis cet ingénieur s'est installé en Turquie où il a représenté diverses sociétés d'outillage.
Il a abandonné le monde de l'espionnage ?
Non. La guerre venant, il a pris contact avec le MI6, les services britanniques, et recrute des agents dans nombre de pays européens, dont l'Allemagne et l'Autriche. Puis parce que les Britanniques ne sont pas très généreux, il travaille ensuite pour l'OSS.
Cet homme était-il intéressé ?
Non, c'est un authentique anti-nazi, mais un réseau ça coûte cher. Et les appareils de transmission, les pattes qu'il faut graisser, etc. Enfin, je vais vite.
Ah, c'est une brosse de ma guerre, ça.
Bon, je ne relève même pas, mon cher. Schwartz obtient donc très vite d'excellents résultats. Grâce à l'un de ses contacts, un industriel autrichien, il recueille des informations importantes sur Auschwitz, mais aussi sur les armes secrètes que développent les nazis.
Quoi, les V1 et V2
hein? Oui, d'autre part, en établissant des relations avec un collaborateur de l'Abwehr.
L'Abwehr, c'est le service de renseignement de l'armée allemande. Hein,
dirigé par l'amiral Canary, oui. Cet homme, c'est le comte von Moltke. Schwartz apprend grâce à lui qu'il existe un réseau clandestin d'officiers anti-nazis.
Le groupe qui, plus tard, en juillet 44, essaiera d'assassiner Hitler.
Hein. C'est exact. L'information est de première importance, parce que si le complot réussissait, cela pourrait hâter la fin de la guerre. Mais, après avoir pris directement contact avec les gens de l'OSS à Istanbul, von Moltke est victime d'une trahison. Il est arrêté et sera pendu.
Tout comme les autres conspirateurs.
En effet.
Et qui l'a trahi, là ?
Ah, ça, c'est la grande question. En fait, le réseau Dockwood est infiltré.
Un agent double ?
Des agents doubles. On s'apercevra plus tard que plusieurs fleurs du réseau sont en réalité des fleurs vénéneuses et ça aura un peu plus tard des conséquences dramatiques. Enfin, ça nous le verrons. L'un de ces types louches est un certain Gross, un contrebandier hongrois qui circule à son aise en Allemagne et a corrompu plusieurs agents de la Gestapo. Oui.
Et Schwartz lui fait confiance?
Il est naturellement très circonspect, mais ce Gross peut faire parvenir à des juifs allemands des pièces d'or. Pièces destinées à payer des pots de vin pour obtenir des visas pour la Turquie, par exemple. En outre, le contrebandier confie à Schwartz qu'il travaille en réalité pour les services hongrois. Or, la Hongrie du régent Horthy, sentant le vent tourner, cherche à établir des contacts avec les alliés.
Ça se passe donc avant l'invasion de la Hongrie par les nazis en mars 44.
C'est hein, ça, oui. D'accord. Les Hongrois, pourtant alliés à Hitler, veulent changer de camp. D'autant que les nazis se font de plus en plus pressants. Ils convoitent les centaines de milliers de juifs hongrois. La dernière grande communauté, à l'exception des Bulgares, n'avoir pas encore été déportée et exterminée. En tout cas, effectivement, grâce au réseau Dockwood, les Américains prennent langue avec un envoyé spécial des Hongrois, un lieutenant-colonel du nom de Hatz.
Mm-hmm. On assiste à une amorce de négociation pour une paix séparée.
Oui, et peu après, trois agents américains sont parachutés en Hongrie. Ils sont porteurs d'une lettre de Roosevelt au régent Horthy, mais il est trop tard, car les troupes allemandes entrent en Hongrie et vont y installer un régime d'extrême droite encore plus dictatorial que celui que présidait jusque-là l'amiral Horthy.
Et cette fois, les juifs hongrois sont vraiment menacés.
Effectivement, hein. Car Eichmann, le grand coordonnateur de la solution finale, ne tarde pas à arriver. À partir de ce moment, un proche du réseau Dockwood va jouer un rôle essentiel et essayer de toutes ses forces de sauver les juifs hongrois.
Qui ?
Joël Brand, un jeune militant sioniste de gauche qui a déjà sauvé des milliers de juifs polonais en les faisant justement passer en Hongrie.
Comment, là ?
Eh bien, ce jeune juif n'a pas hésité à entrer en contact avec des agents de l'Abwehr de l'amiral Canary.
C'est risqué, non, mais enfin, même si l'adverse se défiait des nazis.
Mais c'était réciproque. D'ailleurs, Hitler finira par dissoudre ce service de renseignement au début de 1944. Et Canaris, convaincu d'avoir trempé dans le complot contre le Führer, sera exécuté l'année suivante. Revenons à Brand. Il a donc réussi à protéger la vie de nombreux juifs en se servant de ses relations avec des membres de l'Abwehr. Des types qui n'ont pas agi pour ses beaux yeux.
Il les a payés.
Naturellement. Mmh. À l'époque, chaque juif avait un prix. Et ce sont les organisations juives qui ont payé. À cette occasion, le jeune homme s'est aussi servi des relations du contrebandier Grotz. Toutefois, quand l'Abwehr est dissoute, très peu de temps avant l'invasion de la Hongrie par les nazis, Brand se trouve soudain pris au dépourvu.
Il n'y a plus de protecteur.
Et lui-même se trouve directement en danger de mort. Heureusement, l'un de ses anciens contacts avec l'Abwehr, reconverti dans le SD, c'est-à-dire le service de sécurité des SS, le prend en charge. Toujours bien entendu contre monnaie sonnante et trébuchante. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce type est aussi un agent du réseau de Gould.
Encore un agent double ?
Presque certainement. Mmh. Ce qui montre bien que ce réseau de l'OSS est largement infiltré. Mais, enfin, peu importe. Car l'impensable a lieu. Brand, avec l'aide de Gross et de son ancien protecteur de l'Abwehr, va tenter de négocier le sauvetage des juifs hongrois avec un adjoint direct d'Eichmann.
Il est juif, hein, il prend des risques insensés.
Oui, mais il sait que ce nazi a déjà épargné des juifs tchèques contre le versement d'importantes sommes d'argent.
La cupidité.
Bien entendu. Et Brand peut penser que tant qu'il pourra trouver de l'argent, il sera lui-même en sécurité. Mais Brand va encore plus loin. Toujours obsédé par l'idée de sauver la vie de ces centaines de milliers de juifs de Hongrie, il se risque même à aller voir Eichmann lui-même. L'entrevue de l'aveu même de Brandt, qui sera plus tard témoin du procès du nazi en Israël, est hallucinante. J'ajoute quand même que Brandt y est allé avec l'accord de ses camarades sionistes.
Faut-moi raconter ça, alors.
Eichmann lui propose tout bonnement de lui vendre des juifs.
Oui, lui vendre.
Exactement. Eichmann lui dit à peu près ceci. Voilà, il y a encore 1 million de juifs en Europe centrale, si vous les voulez. Ben, vous les achetez.
C'est inimaginable.
Et c'est pourtant la vérité.
Mais comment Eichmann veut-il être payé ?
En marchandises, essentiellement. Il exige 10 000 camions, du thé, du café, du cacao, du savon, et quand même, quelques devises étrangères.
Des vies contre des marchandises.
Exactement. Brand, bien sûr, est affolé.
Oui, parce qu'il ne sait pas où se procurer de telles quantités de biens.
Et que Eichmann ne lui laisse que 15 jours pour réussir.
C'est une mission quasi impossible.
Oui, et pourtant le jeune homme est autorisé à partir pour Istanbul et il se propose de contacter les Américains de l'OSS et les représentants de l'agence juive qui se trouve en Syrie.
Avant de poursuivre votre avis, la proposition d'Eichmann était-elle sérieuse ?
Franchement, je ne le pense pas. Et d'ailleurs, le nazi n'attendra pas longtemps avant de donner l'ordre de déporter les premiers juifs vers Auschwitz.
Sans même attendre la réponse de Brand.
Oui.
Mais Brand trouve-t-il une oreille attentive auprès des Américains ?
Ceci qu'il arrive à joindre par l'intermédiaire du réseau Dogwood n'écarte pas, a priori, l'idée de ce troc monstrueux, même s'il commence à se méfier de Brand.
Bon, pourquoi là ?
Parce qu'il le soupçonne lui aussi de jouer un double jeu.
Oui. Et les organisations juives alors ?
Ah ben elles sont prêtes à faire des efforts financiers considérables pour sauver les leurs. Par contre, les Britanniques sont beaucoup plus sceptiques. D'autant qu'il y a toujours chez eux la crainte de voir ces centaines de milliers de juifs débarquer en Palestine. Aussi, lorsque Brand quitte la Turquie pour la Syrie, il s'arrange pour l'arrêter et le mettre à l'ombre pendant 3 mois.
Et ce faisant, il ruine tout espoir de voir aboutir le marchandage avec Eichmann. Hein.
C'est exact. Enfin, au fond, peut-être ont-ils eu raison.
Que voulez dire, là ?
La proposition d'Eichmann cachait sans doute un piège. C'est Gross, le contrebandier agent double, qui l'a avoué plus tard. En initiant cette tentative de négociation, Eichmann obéissait à un ordre d'Himmler, l'un de ses maîtres. Celui-ci, qui se voyait bien, succédait à Hitler. Essayait par le biais de cet horrible marchandage de tenter une approche en direction des alliés. Mais pas tous les alliés, seulement les anglo-saxons, car la manœuvre avait aussi pour but d'enfoncer un coin entre ces derniers et l'URSS.
Était-ce encore possible, là ?
J'en doute, encore que...
Soyez plus clair.
Imaginez que le troc juif contre camion ait réussi. À quoi auraient servi ces milliers de véhicules ? À équiper les troupes du Troisième Reich engagées sur le front de l'Est contre l'armée rouge. Et Staline n'aurait sans doute pas apprécié.
Ouais, ça, c'est possible. Un dernier mot, voilà. Et ces malheureux juifs hongrois ?
Ils ont pratiquement tous péri dans les chambres à gaz des camps d'extermination. À l'exception de quelques milliers qui ont pu être sauvés grâce à l'initiative d'une puissante organisation caritative juive qui les a littéralement achetés grâce à l'argent de ce comité américain créé par Roosevelt, le WRB. Mais attention, personne ne devait savoir que ce WRB se trouvait derrière. Et ça, sans dire.
Lors du procès Eichmann, M. X l'a dit, Joël Brand a évoqué l'épouvantable marchandage auquel l'a contraint le nazi. Et voici ce qu'il a déclaré à la barre. C'était une proposition épouvantable. Eichmann a détruit ma vie. Eichmann a mis sur mon dos 1 million d'êtres humains dont la plupart, je suis désolé de le dire, ont été tués par lui. D'un autre côté, nous ne pouvions pas rejeter l'offre de sauver des vies humaines. Il est aussi difficile de passer sous silence l'action acharnée du Suédois Wallenberg qui a sauvé 20 000 juifs hongrois en leur accordant des passeports de son pays. Wallenberg qui a ensuite disparu dans les geôles de Staline. Mais nous avons déjà longuement abordé ce dossier avec M. X. Je vous rappelle la récente parution du livre de Fabrizio Calvi, Pacte avec le diable, et celui de Richard Breitman, Secrets officiels. Et je vous invite aussi à consulter l'ouvrage de David Wyman qui a fait date sur cette question, l'abandon des Juifs, les Américains et la solution finale. Enfin, M. X m'a promis de me parler la semaine prochaine de l'un des hommes qui a pris une part essentielle dans l'extermination des Juifs, Müller, le tout puissant chef de la Gestapo, l'homme qui était donc le supérieur direct d'Eichmann et qui a mystérieusement disparu en 1945 après la capitulation allemande.